Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 36e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du collier dans le BDSM sous la forme d'une introduction sur ce sujet. Alors, je précise, cet épisode n'a pas pour prétention d'être une analyse super poussée du sujet. Je vais pas aller à fond comme je le fais parfois, souvent même dans mes articles sur mon site principal par exemple. Là, ce que je vais essayer de vous donner, ce sont juste quelques idées, quelques pistes, des choses qui me viennent en tête quand on parle du collier, dans un cadre BDSM bien entendu, et puis diverses réflexions qui me viennent en tête. Comme le collier dans le BDSM, c'est quelque chose de symbolique qui est assez connu quand même, je me suis dit que ça valait la peine de faire au moins déjà un premier épisode, même si je reste superficiel dans ce premier épisode. Première partie, quelle est l'origine du collier BDSM ? Eh bien, la réponse à cette question, elle n'est pas évidente du tout. J'ai fait un petit peu de recherche. Alors, j'avoue que j'y ai pas passé des mois, contrairement à certaines recherches que j'ai pu faire pour certains sujets dans mes articles. Mais le résultat de mes recherches, franchement, était pas très concluant, pas très convaincant. J'ai vu passer un certain nombre de choses, un certain nombre d'opinions, parce que franchement, c'était des opinions, avec lesquelles, je suis pas d'accord, en fait. Donc, c'est pas super clair. Alors, je vais essayer de vous présenter ce que je pense être une réponse à peu près raisonnable, mais je veux être bien clair, ce n'est pas là une approche vraiment totalement scientifique. Je pense pas d'ailleurs que ça existe à l'heure actuelle, une approche scientifique, une réponse scientifique à cette question. Avant tout, je veux rappeler que le collier dans le BDSM, c'est quelque chose de connu, et c'est supposé symboliser une forme d'appartenance, c'est-à-dire vous avez l'idée de quelqu'un qui revêt un collier, pour dire qu'il ou elle appartient à une autre personne. Donc ça se fait dans des relations typiquement de domination-soumission, mais de façon générale dans le BDSM, dans tous les types de pratiques, on peut adopter ce genre de convention, et c'est assez connu. Personnellement, je fais du BDSM depuis très longtemps, je l'ai déjà dit plein de fois dans de précédents épisodes, et je dois dire que j'ai pas un souvenir très clair de quand j'ai vraiment commencé à entendre parler ou à avoir des illustrations à ce sujet. J'ai commencé à m'intéresser vraiment sérieusement au BDSM vers la fin des années 1980, et j'ai pas vraiment un souvenir très clair à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai en souvenir, évidemment, c'était les pratiques qui m'intéressaient, et qui m'intéressent toujours d'ailleurs, du type bondage, les fessées, les coups de fouet, ce genre de choses. Parce que ça, c'est le genre de choses qui m'intéresse le plus dans le BDSM. Mais les histoires de fouet, etc., c'est bien, j'en avais vu beaucoup, mais par contre, le coup du collier, j'ai plus de mal à revenir en arrière et à me dire « Ah ouais, je l'avais vu à cette époque-là ». Alors maintenant, avec le recul, je revois certaines bandes dessinées, adultes, évidemment, à thème BDSM, ça va de soi, qui en utilisaient plus ou moins, mais dans ce genre de bandes dessinées, c'était pas vraiment le même exact symbolisme qu'on utilise maintenant, donc je suis pas totalement certain que c'était pareil. Mais même là, j'ai pas un souvenir super clair. Je me rappelle par exemple quand j'achetais des magazines de bondage, des magazines anglais, j'ai pas du tout le souvenir qu'il y ait eu des colliers ou des choses de ce genre. Et même après, les différents magazines ou bandes dessinées que je lisais, non vraiment, j'ai pas un souvenir que c'était quelque chose de très présent, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, de nos jours, il y a internet, tout ça, et puis les choses ont un petit peu changé, il y a eu des évolutions, c'est normal. Et il est clair que le collier, on en entend souvent parler, on le voit un peu partout, Pas partout, mais un peu partout. C'est devenu quelque chose d'assez connu, même en dehors du pur milieu, entre guillemets. C'est-à-dire, quand je dis milieu, là, je veux dire les personnes qui pratiquent le BDSM. Même en dehors de ça, je pense que maintenant, c'est devenu assez connu. Pourtant, son origine, elle est pas si claire. D'où est-ce qu'il vient ce collier? D'où est-ce qu'elle vient cette idée? Alors évidemment, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que ça nous ramène à l'esclavage. Le vrai esclavage, pas l'esclavage au sens BDSM, qui évidemment n'a rien à voir avec la réalité, évidemment. La deuxième optique, c'est tout ce qui est domestication des animaux, évidemment. Alors je vais revenir tout de suite à ces deux hypothèses, mais une troisième que j'ai vu passer, et je vais en parler tout de suite, c'est que j'ai lu à certains endroits des personnes qui disaient, sur internet, donc dans des articles, que l'origine venait du roman Histoire d'eau. Je vous rappelle que ce roman, il a été publié en 1954, donc il y a un bon moment déjà, et il est intéressant de noter, il est bon de savoir, que la personne qui l'a écrit, ce roman, en fait, elle n'avait pas vraiment de connaissance du BDSM, c'est-à-dire à l'époque, évidemment, toutes les pratiques de type BDSM, c'était très mal vu, c'était pas des choses dont on parlait publiquement, je vous apprends rien, ce n'est que très récemment qu'on peut, de façon facile, arriver, notamment avec internet, bien entendu, à consulter des écrits, des articles plus ou moins sérieux, aller sur des forums de discussion, etc. Bref, se renseigner. À cette époque-là, c'était quasiment impossible de se renseigner, il y avait juste du bouche à oreille en fait. Parfois, il y avait un tout petit peu le sujet qui était abordé dans des livres sur la sexualité, mais franchement, pour ceux que j'ai lus, qui étaient à peu près de ces époques-là, plutôt les années 60. Hein. Franchement, c'était tellement à côté de la plaque que je préfère ne pas en parler parce que c'était vraiment ridicule. C'était très éloigné de la réalité. Enfin, c'est pas vraiment surprenant hein, quand on regarde que c'était quand même dans des années où le sujet était encore très tabou. Donc faut pas être surpris de lire des choses qui sont bizarres ou qui sont un peu ridicules. Quand j'ai lu donc ces affirmations, que le collier, et d'autres choses d'ailleurs, mais là je vais pas en parler, aurait pour origine ce roman, j'ai immédiatement été frappé par ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça a pas de sens. Je veux dire, ma réaction, elle a été immédiate. J'ai même pas pendant un instant envisagé que ça puisse être la source. C'est pas possible. En fait, le problème, c'est que on tombe toujours dans le même problème. Je l'ai déjà évoqué dans différents épisodes précédents, dans des articles sur mon site. Le souci, c'est que quand on parle de BDSM, on parle trop souvent de la face visible, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg. Et cette partie émergée de l'iceberg, ce sont ben, les personnes qui ont écrit sur le BDSM, les rares personnes qui étaient connues pour en faire parce que c'était devenu plus ou moins des personnes publiques, évidemment plus ou moins vues comme étant sulfureuses, etc., à des époques un peu éloignées, hein, je veux dire. Ce genre de choses. Mais tout ça, je me répète, je sais, mais c'est totalement déconnecté de la réalité. Le BDSM, ce n'est pas uniquement les personnes qui sont visibles, c'est pas que la partie émergée de l'iceberg. Si j'utilise l'image de l'iceberg, c'est pas par hasard. En réalité, le BDSM caché, celui qui est pratiqué par la quasi-totalité des gens, ça représente plus que 99%. À l'heure actuelle, j'estime que c'est plus que 99,9%. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans les événements publics, ou bien qui écrivent ouvertement sur le sujet, ou qui se présentent ouvertement comme faisant du BDSM, c'est même pas 0,1% des gens qui font du BDSM. Et je suis très généreux en donnant ce pourcentage. Si on compte vraiment que les personnes qui comptent vraiment, entre guillemets, c'est-à-dire les célébrités, ou plus ou moins célébrités, ou même les gens qui écrivent un peu de façon sérieuse, bon, disons les gens comme moi, par exemple, hein. Même si on ajoute des gens comme moi, par exemple, qui suis pas vraiment quelqu'un qu'on devrait compter dans les célébrités. Bon, et ben si vous ajoutez tout ce monde-là ensemble, je pense même pas que ça fasse 0,01%. Ce sont quelques centaines de personnes en France, et je suis très généreux en disant quelques centaines. Et ça, ça a toujours été vrai, parce qu'il y a aussi un mythe que j'ai déjà dénoncé, j'ai déjà expliqué que tout ça c'était faux. En fait, le BDSM, c'est pas nouveau. Le BDSM, c'était pas réservé à une espèce d'élite dans le passé, ni d'ailleurs au temps présent. Ça a toujours été pratiqué par plein de gens. C'est juste qu'on n'en parlait pas parce que, ben, c'était un peu tabou, c'était un peu délicat, qu'il y avait les tabous sur le sexe, que la seule chose dont on pouvait parler, et encore, c'était des choses vraiment du genre le missionnaire, et rien que parler de choses du genre anal ou oral, déjà, ça posait des problèmes. J'ai vu passer plein d'écrits, des ouvrages, des réactions, etc., ou même des choses comme ça qui sont quand même assez basiques. C'était le bout du monde, c'était l'horreur, oh là là, le drame. Même de nos jours. Même de nos jours, vous avez encore beaucoup de personnes pour qui c'est le drame. Mais c'est pas parce qu'on parle pas de quelque chose que ça existe pas. Le BDSM, c'était très répandu dans le passé. Ça s'appelait pas BDSM, bien entendu, mais les pratiques de type BDSM, ce qu'on regroupe à l'heure actuelle sous le terme BDSM, ça a en fait toujours existé, on peut le dire, hein. En tout cas dans l'humanité moderne. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez certes des auteurs, comme par exemple Sade, hein, qui ont marqué leurs époques et le futur ensuite, parce qu'ils ont propagé ou elles ont propagé différentes idées, qui ont plus ou moins eu du succès, plus ou moins attiré l'attention, en bien ou en mal. Mais une chose est certaine, c'est que ces personnes-là n'ont pas créé le BDSM. BDSM, ça existait avant. Et il y a plein de personnes qui avaient jamais entendu parler de Sade, parce que Sade, pour information, ça fait très peu de temps que ça a été redécouvert. Hein. Il a été banni, entre guillemets, pendant très 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 longtemps. Et on n'a pas non plus attendu, ben, Histoire d'eau, ou de façon plus récente, les romans et les films de 50 nuances degrés, par exemple. Je pourrais vous citer plein d'autres exemples, mais toutes ces personnes qui ont écrit des romans, des biographies, qui ont fait des films, etc., ont dans une certaine mesure contribué à propager certaines images du BDSM, ça c'est sûr, et ont de façon certaine contribué à diffuser un certain nombre de ces idées et de ces pratiques, mais c'est pas pour autant que toutes ces personnes, elles ont inventé tout ça. Reprenons donc le cas de notre collier. Franchement, est-ce que ça vous paraît plausible, possible, qu'on ait découvert l'idée d'utiliser des colliers pour avoir des relations donc de domination-soumission dans le BDSM, que à partir du moment où le roman Histoire d'eau est paru? Non, c'est évident. Ça fait des milliers d'années que les colliers, ça a été utilisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'esclavage, le vrai esclavage, hein, les choses qui font pas rire, ou de la domestication des animaux. Est-ce que vous pensez vraiment que dans le passé, même des siècles en arrière, hein, si on revient à des centaines d'années en arrière, qu'il y a personne qui a jamais eu l'idée d'utiliser ce genre de choses dans une relation? C'est invraisemblable, ça a pas de sens. C'est évident qu'il y a des gens qui l'ont fait. Alors le problème, évidemment, c'est que c'est difficile de trouver des témoignages. C'est difficile parce que la plupart des gens, ils écrivaient pas leur mémoire, et quand ils écrivaient leur mémoire, il y en a pas beaucoup qui écrivaient leur mémoire sexuelle, parce qu'avec les tabous, les machins, etc. Et évidemment, énormément d'écrits en plus ont été perdus avec les guerres et puis avec le temps, tout simplement. Donc même sans aller plus loin, je pense que cette simple, minuscule démonstration de logique montre que c'est invraisemblable. On ne peut pas dire que c'est l'auteur d'Histoire d'eau qui a amené la notion de collier. Elle a peut-être aidé à la diffuser, à attirer l'attention des gens dessus. Ça, d'accord. Mais l'inventer, la créer, etc., non, c'est évident, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Alors revenons maintenant à nos deux origines possibles, qui sont donc l'esclavage et la domestication des animaux. Si je commence par l'esclavage, alors j'ai fait quelques recherches, j'avoue que c'était pas des recherches hyper profondes, mais les colliers utilisés pour indiquer qu'une personne est esclave, ça remonte vraiment très loin dans le temps. J'ai trouvé des exemples qui remontaient à l'Antiquité, et là on parle bien de colliers d'esclaves, hein. Attention, pas du tout des choses qui sont des ornements, hein. Parce que bon, de nos jours, il y a tellement de variétés dans les colliers, les bijoux, etc., qu'on pourrait trouver des choses qui ont des similitudes avec ce genre de choses du passé, et qui ne sont que de l'ornementation. Là, on parle vraiment de choses dont c'est sûr que c'était des colliers qui étaient posés sur les esclaves, très difficiles à enlever, dans certains cas quasiment impossibles, et qui permettaient en fait d'identifier que la personne est une esclave, pour que si jamais elle essaye de s'évader, qu'on sache immédiatement que c'est quelqu'un qui essaye de se sauver. Alors je vais pas entrer dans les détails sordides, parce que c'est pas super glorieux et c'est pas très plaisant comme sujet, mais une chose est sûre, c'est que ce genre de choses, ça remonte très loin dans le passé, à des milliers d'années en arrière. Ça n'a pas forcément été toujours utilisé d'ailleurs, ni utilisé de la même façon selon les pays et les époques, hein. Mais on peut trouver des exemples qui remontent vraiment très loin dans le passé. Il est donc à peu près évident que ce genre de choses, qui en plus ce sont des choses connues, parce que l'existence de l'esclavage à l'époque de l'Antiquité notamment, c'est quelque chose de très connu. Et je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours été très connu, parce que c'est quelque chose qui est rattaché à cette époque-là de façon assez forte, en tout cas dans ma perception, hein. Il est donc très probable que il y a eu des gens pour qui ce genre de notion a ensuite été utilisé pour les copier tout simplement, pour faire la même chose, pour jouer à l'esclavagisme entre guillemets, de la même façon que par exemple les enfants jouent aux gendarmes et aux voleurs. Je veux être bien clair pour ça, on parle pas là de vrai esclavage, pas plus évidemment que quand vous étiez enfant et que par exemple vous avez joué aux gendarmes et aux voleurs, vous étiez pas des vrais voleurs et des vrais gendarmes, c'est évident. La deuxième possibilité, évidemment, c'est tout ce qui est les colliers sur les animaux. Alors là, j'ai fait des recherches, c'était pas très clair, franchement. Pour savoir à quelle époque remontent réellement les colliers, leurs usages, etc., c'est pas totalement simple. Donc je vais simplifier outrancièrement, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu différents types de laisses, d'attaches et de colliers. Il y en a eu pour le travail des animaux, par exemple pour les chevaux. Alors ça, je vais pas le compter parce que c'est pas du tout ce genre d'usage. Mais il a existé beaucoup de colliers. Par exemple, l'exemple peut-être le plus connu, ce sont les colliers pour les chiens. Alors de ce que j'ai réussi à trouver, mais j'ai pas fait des recherches très profondes, je vous préviens. L'utilisation de cordes, par exemple, pour tenir en laisse entre guillemets son chien, ça semble remonter à avant l'Antiquité. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu depuis très longtemps des colliers qui ont été mis aux chiens, mais pas forcément pour tenir le chien attaché en fait, contrairement à l'usage actuel, hein. Un des grands usages, c'était par exemple pour défendre le chien contre des prédateurs, comme des loups par exemple. Parce que les prédateurs attaquent les chiens à la gorge, et donc avoir des colliers, c'était une protection. Parce que les chiens qui étaient gardiens de troupeaux, évidemment, ils étaient attaqués par des loups, par des coyotes, ce genre de choses, et en leur protégeant la gorge, ça les protégeait donc des attaques. C'est un usage qui existe encore de nos jours d'ailleurs, j'ai vu des articles assez intéressants qui discutent d'usages modernes, tout à fait modernes, pour lutter contre les coyotes par exemple. Je viens de lire un article il y a pas longtemps, aux USA ils expliquaient comment ils faisaient dans une région qui était infestée de coyotes, pour défendre et lutter contre les coyotes avec des colliers tout simplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez des colliers, donc qui étaient des colliers avec des rivets métalliques ou carrément avec des pointes. C'est la raison, c'est pour défendre l'animal qui le porte contre des attaques. Mais évidemment après vous avez aussi tout le côté, le collier qui est là pour identifier. Alors ça, j'ai pas réussi à trouver à quelle époque exactement ça remonte, mais ça remonte assez loin dans le temps apparemment, puisque j'ai lu récemment un article dans lequel il disait que le collier dans un pays avait été imposé à tous les propriétaires dans un but de taxation en fait. C'était parce que les chiens, il fallait avoir une autorisation officielle en fait de l'avoir et montrer que on avait payé une taxe. Donc là, le but du collier était plus un but légal en fait. Et ensuite, évidemment, vous avez, alors je saurais pas dire exactement quand c'est arrivé, mais vous avez l'utilisation du collier pour marquer qu'on est le propriétaire, marquer son nom à l'intérieur, par exemple. Ça, on le fait encore de nos jours, même si avec les puces électroniques, c'est plus exactement le même problème. Et puis, le coup classique qui, de nos jours, est évident pour tenir un chien en laisse parce que vous voulez pas qu'il se sauve quand vous êtes dans la rue. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous décrire les détails, tout le monde connaît ça. Et donc, à ce niveau-là, si on prend l'exemple sur les chiens, les chats, les animaux de compagnie, et même d'autres types d'animaux, il y a évidemment la notion d'appartenance. Puisque, bien entendu, c'est que quand les humains interviennent qu'il y a un collier. Ils vont pas s'amuser à se mettre des colliers entre eux. Et si on leur met des colliers, c'est entre autres parce que on veut pouvoir soit les contrôler, soit leur donner une marque d'appartenance et montrer que ce sont pas des animaux qui sont sauvages, entre guillemets, qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, qu'ils ont un propriétaire ou une propriétaire. Bon, tout ça, vous le saviez, mais je voulais refaire un petit résumé rapide. Alors à mon avis, le côté BDSM vient peut-être plus de cet angle-là, en fait. Parce que l'esclavagisme en soi, je suis pas certain que ce soit la source la plus fréquente, en tout cas dans ma perception, Je me dis, et j'ai peut-être tort à ce niveau-là, mais je me dis que le côté animaux de compagnie est probablement plus fort, en fait, dans la représentation de l'appartenance, de la domestication. Parce que des chiens, des chats, et puis d'autres animaux, ça fait des milliers et des milliers d'années, évidemment, que les humains, ils en ont autour d'eux. Même de nos jours, quand on n'est plus sur une ferme, on a souvent des animaux soit chez soi, soit chez les voisins, ou bien quand on va dans la rue, je pense pas que vous arrivez à faire plus de quelques centaines de mètres sans voir passer quelqu'un qui tient par exemple un chien en laisse. Du coup, comme c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus souvent, je pense que c'est plus de là que va venir l'idée de l'utiliser ce collier dans un couple, plus que de se rappeler des choses du genre esclavage, etc., qui elles remontent beaucoup plus loin dans le temps, et qu'on ne voit pas dans la rue par exemple. Parce que les chiens, les chats, vous en voyez dans la rue tous les jours. Mais voir des esclaves qui portaient des colliers, etc., faudrait revenir sacrément loin dans le temps quand même pour en voir. En France, en tout cas. Donc à mon avis, et j'insiste, c'est vraiment là plus une opinion, une perception personnelle, le côté domestication, animaux de compagnie, animaux domestiques, est probablement plus ce qui incite des personnes à utiliser des colliers. Même des personnes qui n'ont jamais entendu parler du BDSM, ou de toutes les habitudes, entre guillemets, qui sont publiées dans des livres, dans des bandes dessinées, etc., et qui sont assez souvent pratiquées par les personnes qui font du BDSM. Bon, et puis ensuite, évidemment, comme de nos jours, le BDSM, on en parle beaucoup plus ouvertement, que c'est quasiment possible d'en parler en public, et que les colliers, c'est très souvent utilisé dans les relations. Quand on va dans des sex-shops, même des sex-shops non BDSM, on peut en trouver. Donc évidemment, ça va renforcer fortement l'association entre le BDSM et l'utilisation d'un collier. Deuxième partie, l'utilisation du collier dans le BDSM. Même si l'origine exacte donc de pourquoi est-ce qu'on associe le BDSM au collier est pas totalement claire, c'est pas très grave, une chose est sûre, c'est que de nos jours, il y a quand même pas mal de propagation de messages qui les associent. C'est ce que je venais de dire, vous allez dans des sex shops, vous regardez des photos, des vidéos sur internet, ou bien vous allez même dans des soirées, des choses comme ça, vous verrez beaucoup de personnes qui portent des colliers. Donc on peut dire que de nos jours, c'est dans l'imaginaire des gens qui font du BDSM, et même en dehors en fait, il y a une association assez forte entre les deux. C'est quelque chose de connu. Cela dit, immédiatement, il y a une question qui vient, et là je vais revenir un petit peu à ce que j'ai dit dans la partie précédente, c'est l'éternelle question, est-ce que c'est réellement si répandu que ça parmi les personnes qui font du BDSM? Et là, attention, je veux dire toutes les personnes. Je parle plus du tout des personnes qui sont entre guillemets « visibles ». Parce que, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, quand on parle de sexualité, et de BDSM en particulier, il y a toujours cette idée que, le modèle, entre guillemets, qui est choisi, qui est suivi par les personnes, qui veulent en faire ou qui en font, c'est évidemment, ce qu'on voit, c'est-à-dire les personnes qui sont publiques, le porno, etc. Ce qui se comprend tout à fait, je veux dire, ce serait difficile de faire autrement. Mais c'est pas parce que on voit des choses qui sont très répandues dans certains milieux, entre guillemets, que ça veut dire pour autant que c'est très répandu parmi les personnes qui sont pas, par exemple, des personnes connues, des personnes qui sont un peu publiques, des personnes qui vont dans les événements publics, dans les soirées, etc. C'est exactement le même problème que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, qu'en est-il? Est-ce que c'est si répandu que ça? Alors, à mon avis, alors là, c'est une perception, une opinion personnelle, mais je pense qu'on peut assez facilement le montrer quand même. À mon avis, c'est très répandu comme façon de penser et de faire parmi les gens donc qui sont à fond dans le BDSM, qui vont aux événements, qui sont un peu connus, mais même aux personnes qui sont pas forcément connues, mais qui s'intéressent à tous ces événements, au porno, etc., qui suivent tout ça, et qui donc ensuite, probablement, reproduisent un certain nombre des schémas qu'on y voit. Chose assez normale, je veux dire, c'est tout à fait normal, même moi, des fois, j'ai reproduit des choses que j'avais vues parce que je m'étais dit « Ah ouais, ça me plaît, je voudrais faire pareil ». C'est quelque chose de tout à fait banal, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de surprise là-dedans. Par contre, je l'ai rappelé déjà dans la partie précédente, et je l'ai déjà évoqué dans plein d'autres épisodes et des articles, il y a beaucoup de gens qui font du BDSM et qui s'intéressent pas forcément au côté BDSM public, événements, etc., qui voient éventuellement du porno, mais pas forcément en prenant ça comme étant un modèle, Et aussi, il y a beaucoup de gens qui, de façon un peu surprenante, hein, si vous n'avez pas écouté mes épisodes précédents, font du BDSM sans même le savoir. Parce qu'il y a énormément de personnes qui font des pratiques qui sont rattachées au terme BDSM et qui s'en rendent pas compte. Parce que, ben, pour s'en rendre compte, il faudrait encore savoir exactement ce que veut dire BDSM, ce que ça recouvre. Et comme, ben, l'éducation sexuelle est assez pitoyable, notamment en France, ben, beaucoup de gens ne savent pas que, par exemple, leur fessée du samedi soir, ou bien d'attacher le copain ou la copine sur le lit, ben, ça, c'est déjà du BDSM. Donc, comme ils le savent pas, ben, évidemment, ils vont pas forcément vouloir suivre les, entre guillemets, modèles qu'on voit sur Internet et qui sont propagés notamment par le porno et aussi parfois par des choses du genre, prenons l'exemple récent, 59 degrés. Chez ces gens-là, c'est difficile de mesurer à quel point c'est répandu, mais à mon avis, ça doit pas l'être énormément. Il y en a certainement qui l'utilisent sans même avoir jamais eu de modèle de type BDSM, hein, tout simplement parce qu'il y a l'idée de le chat, le chien, etc., hein, bien sûr. Si vous avez des animaux de compagnie, notamment si vous avez donc un chat et un chien, vous avez chez vous qui traînent des laisses et des colliers, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour avoir l'idée de les utiliser sur le copain ou la copine, évidemment. Mais cela dit, je pense quand même que ça doit pas être des choses qui sont ultra répandues. Que ce soit à partir d'un modèle, entre guillemets, vu sur Internet, ou autre. Ou bien juste, ben, les personnes qui se disent, ah ouais, tiens, je vais faire comme avec mon chien, tiens, viens ici, je vais te mettre le collier. Je soupçonne fortement que ça va être une minorité. Parce que dans ce que je perçois, et je me répète, hein, c'est ce que je perçois, je ne prétends pas que c'est scientifique, la plupart des gens qui font des choses comme ça vont plutôt tendre vers des choses du genre le bondage, la fessée, ou bien des choses qu'on appelle le sexe entre guillemets violent, c'est-à-dire des choses du genre jeter par exemple quelqu'un sur le lit, tirer les cheveux, griffer le dos, etc. Choses qui sont ultra connues, qui sont ultra pratiquées, hein, puisqu'on savait déjà que c'était pratiqué de façon répandue dans les années 1950, pour vous dire. Mais après, pour le côté domination, etc., je pense que ça va être quelque chose qui va intéresser plus des personnes qui seront largement plus à fond, entre guillemets, dans le BDSM. Si vraiment on n'y est que de façon ponctuelle avec, comme je disais tout à l'heure, la fessée du samedi, ou attacher le copain ou la copine sur le lit, ce qu'on fait une ou deux fois par mois peut-être, bon là c'est pas être à fond dans BDSM, même si c'est du BDSM, je pense qu'il y a beaucoup moins de probabilité que des personnes qui le font comme ça de façon vraiment occasionnelle, pour pimenter hein, leur vie sexuelle, vont vouloir aller plus loin, et notamment dans des histoires de domination-soumission qui sont impliquées hein, par l'utilisation du collier. C'est une perception toute personnelle, mais je pense franchement que c'est, même sans arriver à vous le prouver scientifiquement, en tout cas c'est le plus probable. En résumé, pour conclure sur ce point-là, je dirais que la très grande majorité des personnes n'en utilisent probablement jamais en fait des colliers. Et quand je dis la très grande majorité, probablement que c'est plus de 80% ou 90%. Maintenant, si je parle des personnes qui sont plus à fond entre guillemets dans BDSM, c'est-à-dire au moins qu'en font assez régulièrement, qui se sont renseignées dessus, ce sera peut-être votre cas, peut-être pas. Mais là, donc, je veux plus parler des personnes qui le font vraiment de façon très ponctuelle. Hein, je veux parler que des personnes qui, au moins, ont une certaine conscience de faire ce qu'on appelle le BDSM, et qui en font suffisamment régulièrement pour que quand on leur pose la question, ils ou elles vous disent « Ah oui, oui, je fais ce genre de choses ». Donc, si on est dans ce contexte, dans le contexte de personnes qui sont déjà relativement investies dans ce genre de pratiques, vous avez la question « Est-ce que c'est indispensable ?» Alors ça peut vous surprendre que je parle comme ça, parce que vous allez vous dire « ben non, évidemment, c'est pas indispensable ». Mais en fait, c'est tellement répandu, et il y a beaucoup de personnes qui sont assez à fond dans le BDSM, qui ont ben des idées assez arrêtées hein, sur qu'est-ce qui est associé au BDSM et qu'est-ce qui ne l'est pas. Même sans entrer dans les excès, hein, dans les personnes qui sont très strictes sur leur définition du BDSM, vous avez pas mal de gens qui ont un peu des tendances à vous dire que « Ah ouais, mais ça, c'est pas vraiment du BDSM, etc. » Bon, c'est assez bidon, mais je vais pas entrer dans les détails, parce que sinon, on n'en finirait pas. Et le collier, je pense, ça fait vraiment partie des choses qui sont dans l'imaginaire d'une très grande partie des personnes hein, qui en font au moins un petit peu, ou au moins régulièrement, que je serais pas surpris que la plupart des personnes que vous interrogeriez et qui feraient partie de cette catégorie vous diraient que c'est une évidence, par exemple. Pour ça que j'utilisais le mot « indispensable hein. ». Alors ne le prenez pas trop au pied de la lettre. Alors le truc, c'est que là, je commence à entrer dans un problème classique du BDSM que j'ai déjà dénoncé pas mal de fois, c'est le poids du folklore. Quand vous parlez à des personnes qui sont pas mal investies dans le BDSM, souvent ces personnes, elles ont dans leur imaginaire une grande part du folklore BDSM qui est entré et qui est accepté comme étant, entre guillemets, la bonne façon de faire, la façon attendue, en fait, de faire du BDSM, le folklore. Évidemment, là-dedans, il y a beaucoup d'exagération, ce qui est un gros souci, mais je vais pas trop détailler. Et c'est clair que si vous allez visiter par exemple des soirées ou même simplement des réunions BDSM du genre des munch, je vous rappelle ce sont des discussions sur BDSM qui se tiennent en public, là vous allez vous apercevoir que c'est vraiment très répandu comme idée, comme conception. Mais à mon avis, je pense que c'est clair que c'est pas pour autant que ce soit indispensable en quelque façon que ce soit. Le folklore c'est très bien, mais c'est souvent un peu pesant, et puis ça tombe un petit peu trop souvent dans des tendances dogmatiques, voire pire. Donc pour moi il est évident, je le confirme, sans doute que vous l'aviez déjà imaginé, mais je le confirme, il n'y a pas de raison de penser que ce soit indispensable en quelque façon que ce soit, même si vous êtes à fond dedans, même si vous avez une relation domination-soumission avec votre partenaire. C'est très répandu, ça c'est sûr, c'est vu comme étant quelque chose d'entre guillemets normal, mais c'est pas la même chose que dire que c'est obligatoire. Alors vous entendrez par exemple, à propos du folklore, si vous avez fait un peu de recherche ou si vous avez parlé à des personnes qui sont un peu à fond dans leur BDSM, et souvent qui sont aussi un peu dogmatiques, etc., et qui sont à fond dans le folklore, vous avez peut-être entendu parler de choses du genre cérémonie du collier, les différents types de colliers, il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla, bon, tout un tas de règles de folklore, il n'y a pas d'autre mot. Alors tout ça, je vais pas entrer dans les détails dans cet épisode, mais tout ça, ça existe, c'est sûr, mais faut pas le prendre comme étant quelque chose d'obligatoire en quelque façon que ce soit. C'est toujours le même problème, ça fait des années que j'en parle maintenant, il y a des personnes qui établissent un certain nombre de règles de comportement, qui suivent un certain folklore, etc. Très bien, pas de problème, chacun ses idées. C'est pas pour autant que ça doive s'imposer à vous. Personnellement, par exemple, il y a beaucoup de choses comme ça que je respecte pas du tout parce que ça m'intéresse pas, et dans certains cas, je trouve que ça a aucun sens, et même dans d'autres cas, je trouve que c'est ridicule. Donc évidemment, je les fais pas. Si d'autres personnes le font, c'est leurs affaires, ça ne me dérange pas. Mais par contre, là où c'est problématique, c'est quand on vous présente ça comme étant obligatoire. Et ça, je me bats depuis des années pour bien dire non, il n'y a rien d'obligatoire. Si ça vous plaît et que vous voulez l'adopter, vous pouvez, c'est pas un problème, mais faut pas croire que vous êtes obligé de suivre toutes ces idées, tout ce protocole, ces histoires de type de collier selon que vous allez ici ou là, c'est pas le même collier parce que blablabla, ou bien ces histoires donc de cérémonie et tout ça. Si ça vous plaît pas, comme c'est mon cas par exemple, vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre, et de toute façon, pour être bien clair, ce genre de choses, c'est une infime minorité de personnes qui les font. Mais comme toujours, je me répète, vous m'en excusez, le problème c'est que les personnes qui suivent ce genre de règles, de protocoles, de folklore, sont généralement très visibles. Dedans, vous trouvez beaucoup, de façon même disproportionnée, beaucoup de personnes qui sont auteurs de livres, d'écrits en tout genre, qui font des blogs, qui font des vidéos sur YouTube, etc., qui parlent très fort, qui ont organisé des soirées, des clubs, des associations, bref, qui ont une représentation totalement disproportionnée par rapport à leur nombre. Mais donc tout ça, ça existe, il y a des gens qui ont créé donc, depuis assez longtemps d'ailleurs, un certain nombre de choses, mais je me répète une dernière fois, il n'y a rien là-dedans qui soit obligatoire, il n'y a rien qui soit indispensable, et ce n'est pas parce qu'on ne les respecte pas qu'on ne fait pas du BDSM. C'est complètement absurde comme argument, mais malheureusement de temps en temps on rencontre des personnes qui vous disent ça en face, ça m'est déjà arrivé. Donc si vous rencontrez ce genre de choses, faut pas que ça vous surprenne, mais simplement, ce qui est important, c'est de les remettre à leur juste place, c'est-à-dire ce sont des choses qui existent, qu'on peut adopter si on veut, mais qu'on n'est pas obligé d'adopter, et que de toute façon, la plupart des gens, non seulement ne suivent pas, mais surtout que la plupart des gens, ignorent complètement l'existence de toutes ces idées, de tout ce folklore. Pour la plupart des gens, ce seront plus des curiosités qu'autre chose, en fait. Bref, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Voilà, je vous ai donné quelques grandes idées qui m'étaient venues sur le sujet, c'est une petite introduction sans prétention. Pour l'anecdote, par curiosité, j'ai pas voulu en faire une partie séparée parce que ça aurait été absurde, mais personnellement, le collier, vous pouviez vous poser la question, est-ce que moi je m'en sers? Et la réponse est oui, je m'en sers la plupart du temps, mais il ne faut pas oublier que moi je suis à fond dans le BDSM, pour moi c'est quasiment un mode de vie, on peut même dire c'est un mode de vie, donc évidemment je suis pas du tout dans la représentation moyenne du BDSM tel que le font la plupart des gens, évidemment, et pourtant il y a quand même des fois où je m'en sers pas parce que ça a pas vraiment de sens. Mais la plupart du temps j'aime bien en utiliser, alors de façon rapide, ce que j'utilise c'est tout simplement des colliers pour chats. Alors probablement que ça vous surprend que je dise ça parce que vous dites « Waouh, c'est pas possible, ça peut pas tenir au cou de quelqu'un ». Eh ben en fait, si, ça tient. Alors je vais pas entrer en détail sur le choix des colliers et les problèmes que ça pose, j'en ferai peut-être un autre épisode. J'ai déjà écrit un article à ce sujet sur mon site, donc si vous voulez un peu plus de précision, vous pouvez aller visiter mon site univers-bdsm.info et chercher un article sur les colliers qui vous donnera beaucoup plus d'informations. Mais je veux pas entrer trop dans les détails dans cet épisode-ci. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ça, le collier pour chat avec la laisse pour chat. Il y en a certains que j'utilise avec des personnes que je connais pas encore, donc là, bah, c'est pas un collier spécifique à la personne. Et par contre, avec des filles avec qui j'ai déjà pratiqué plusieurs fois, qui sont des amies, etc., bah, je leur en ai offert, en fait, des colliers qui étaient un petit peu, entre guillemets, bien, c'est-à-dire qui sont un peu jolis, entre guillemets, parce qu'en temps normal, j'utilise des colliers tout à fait basiques, qui sont là un peu pour le côté du symbolique, et puis parfois pour le côté pratique, pour pouvoir y attacher des choses, par exemple. Mais bon, pour moi, dans la plupart des cas, je le prends pas quand même trop au sérieux, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien parce que c'est marrant, mais franchement, je vois pas là-dedans quelque chose de super sérieux. Je précise parce qu'il y a des gens qui prennent ça super au sérieux, hein. Pas moi, parce que pour moi, bon, c'est plus un côté marrant, etc. En résumé, j'aime bien, ça m'amuse. Ça amuse les filles avec qui je fais du BDSM, hein, mais ça va pas au-delà, en fait, hein. Et même les filles à qui j'en ai offert des colliers, etc., il n'y avait pas vraiment de choses cachées derrière, il n'y avait pas de grandes idées comme ont certaines personnes qui font des cérémonies, etc. Il n'y avait rien de tout ça. Donc ça, ben, c'est ma façon, hein, de le percevoir et de le vivre, parce que je vis mon BDSM de cette façon-là, mais c'est mon BDSM, c'est pas celui des autres, c'est pas forcément le vôtre. Donc comme le collier c'est un sujet assez intéressant, je pense que je vais essayer de réfléchir là à refaire un autre épisode, peut-être même plusieurs d'ailleurs, sur ce type de sujet. En tout cas à l'occasion, enfin dans le futur, je ne saurais pas dire quand. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, des remarques, des suggestions pour des articles ou des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en utilisant le formulaire contact sur mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez, et vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, hein, je suis toujours très intéressé par ce qu'on me dit, par les retours qu'on me fait, et tous les retours qu'on me fait m'aident vraiment, hein, donc ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.